Catéchisme de Trente, chapitre 17e, le sacrement de confirmation. Ce sacrement est exposé en six paragraphes. La confirmation est un vrai sacrement. La matière et la forme de la confirmation. Les ministres de la confirmation. La nécessité de la confirmation. Les effets du sacrement de confirmation. Et les cérémonies du sacrement de confirmation. Ce chapitre est disponible sous forme d'un fichier MP3 unique regroupant les six paragraphes ou sous forme de deux fichiers MP3 regroupant chacun les trois premiers puis les trois seconds paragraphes. Si ce fut toujours un devoir pour les pasteurs d'expliquer avec soin ce qui concerne le sacrement de confirmation, jamais ce devoir n'a paru plus nécessaire qu'aujourd'hui où l'on voit un si grand nombre de chrétiens au sein même de l'Église de Dieu négliger entièrement de le recevoir, et un si petit nombre de chrétiens s'appliquer à en retirer les fruits salutaires qu'il peut produire. Il faut donc que les pasteurs instruisent les fidèles de sa nature, de son efficacité et de son excellence, soit au jour de la Pentecôte qui est le temps principal où on l'administre, soit à d'autres jours où ils pourront le faire commodément. Ils doivent leur persuader non seulement de ne point le négliger, mais encore de le recevoir avec beaucoup de respect et de piété. Autrement, il arriverait par notre faute et pour notre malheur que ce grand bienfait de Dieu nous aurait été accordé en vain. Paragraphe 1er. La confirmation est un vrai sacrement. En commençant par le mot même, on devra dire que l'Église a donné le nom de confirmation à ce sacrement, parce que celui qui, après son baptême, reçoit de l'évêque l'onction du Saint-Crème avec ses paroles sacramentelles « Je vous marque du signe de la croix, et je vous confirme par le crème du salut, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », reçoit aussi, quand rien n'arrête l'efficacité du sacrement, une vertu nouvelle qui le rend plus fort et en fait un parfait soldat de Jésus-Christ. Or, que la confirmation soit un sacrement réel et véritable, la Sainte Église catholique l'a toujours reconnu. Et le pape Melchiade et plusieurs autres souverains pontifes très anciens et d'une sainteté éminente l'ont enseigné clairement. Saint Clément ne pouvait pas l'affirmer d'une manière plus positive. Tous doivent se hâter, dit-il, de se régénérer en Dieu et de se faire marquer par l'évêque, c'est-à-dire de recevoir la grâce et les sept dons du Saint-Esprit. Autrement, si on néglige de recevoir ce sacrement, non par nécessité mais par mépris et volontairement, il est impossible que l'on soit parfait chrétien, comme nous l'apprenons de Saint Pierre et des autres apôtres qui le tenaient de Jésus-Christ lui-même. Les papes Urbain, Fabien, Eusèbe, qui animés du même esprit ont répandu leur sang pour Jésus-Christ, confirment la même vérité par leur décrétale. Tous les pères l'ont aussi soutenu. Saint Denis l'Aréopagite, évêque d'Athènes, expliquant comment on prépare le Saint-Crème et la manière de s'en servir, dit ainsi: Les prêtres revêtent le nouveau baptisé d'un habit conforme à son innocence et le conduisent à l'évêque. Celui-ci le marque d'une onction sacrée et toute divine, et le fait participer de la très sainte communion. Eusèbe de Césarée attribue tant de vertus à ce sacrement qu'il ne craint pas de dire que l'hérétique Nova ne peut obtenir le Saint-Esprit, parce qu'étant malade quand il reçut le baptême, il ne fut pas marqué par le signe du Saint-Crème. Mais les témoignages les plus formels que nous possédons sur ce point sont celui de saint Ambroise dans le livre qu'il écrivit sur les nouveaux baptisés, et celui de saint Augustin dans les traités qu'il composa contre les lettres du donatiste Pétilien. Tous deux étaient si persuadés de la vérité de ce sacrement qu'ils l'ont prouvé et appuyé par plusieurs textes de la Sainte Écriture. Saint Ambroise rapporte la confirmation à ces paroles de l'apôtre: Ne contristez pas l'Esprit Saint de Dieu dans lequel vous avez été marqués. Et saint Augustin en fait autant des passages suivants, dont l'un se lit dans les psaumes, comme l'huile répandue sur la tête d'Aaron et qui coule jusque sur sa barbe, et l'autre dans saint Paul, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et quoique le pape Melquiade ait dit que le baptême est intimement lié avec la confirmation, il ne faut pas croire pour cela que l'un ne soit pas tout à fait distinct de l'autre. La différence des grâces que chacun d'eux communique, les signes sensibles que représentent ces grâces, établissent nettement que ce sont aussi deux sacrements différents. Par le baptême, les hommes sont engendrés à une vie nouvelle. Par la confirmation, au contraire, déjà engendrés auparavant, ils deviennent des hommes faits, en laissant ce qui tient de l'enfance. Dès lors, autant qu'il y a de différence entre la naissance et l'accroissement de la vie naturelle, autant il y en a entre le baptême qui nous régénère spirituellement et la confirmation qui nous fait croître et nous donne la force parfaite de l'âme. D'ailleurs, ne fallait-il pas établir une espèce particulière de sacrement là où l'âme rencontre une espèce particulière et nouvelle de difficulté? Si nous avons d'abord besoin de la grâce du baptême pour réformer notre âme par la foi, n'est-il pas également très convenable que nos cœurs soient affermis par une autre grâce, afin que rien ni la crainte d'échappement, des supplices et de la mort ne puisse nous empêcher de confesser la vraie foi? Or, c'est ce dernier effet qui est produit par la confirmation. D'où l'on doit conclure qu'elle est un sacrement différent du baptême. Et voici comment le pape Melquiade exprime cette différence d'une manière très précise. Au baptême, dit-il, l'homme est enrôlé dans la milice, et dans la confirmation, il est armé pour le combat. Sur les fonds du baptême, l'Esprit-Saint accorde la plénitude de l'innocence, et dans la confirmation, il perfectionne pour conserver la grâce. Dans le baptême, nous sommes régénérés pour vivre, après le baptême, confirmés pour combattre. Dans l'un, nous sommes lavés, dans l'autre, nous sommes fortifiés. Cette vérité, enseignée déjà par plusieurs conciles, a été l'objet d'un décret spécial du Saint Concile de Trente. De sorte que, loin qu'une opinion contraire soit permise sur ce point, le doute même ne l'est pas. Mais puisque nous avons dit plus haut combien il est important d'apprendre aux fidèles par qui tous les sacrements ont été institués, il faut faire connaître aussi l'auteur de la confirmation. C'est un moyen de donner une plus grande idée de sa sainteté. Les pasteurs enseigneront donc que non seulement notre Seigneur Jésus-Christ l'a institué, mais qu'il a déterminé lui-même, au témoignage du pape Saint Fabien, l'usage du Saint-Crème et les paroles que l'Église catholique emploie pour l'administrer. Ils n'auront pas de peine à en convaincre tous ceux qui voient dans la confirmation un sacrement véritable. En effet, tous les sacrements sont au-dessus des forces de la nature, et par conséquent, ils ne peuvent avoir pour auteur que Dieu seul. Paragraphe 2. Matière et forme de la confirmation. Voyons maintenant quelles sont les parties qui composent ce sacrement, et parlons d'abord de ce qui en fait la matière. La matière du sacrement de confirmation s'appelle le crème. Ce mot tiré du grec est employé par les écrivains profanes pour désigner toute espèce de parfum. Mais les auteurs ecclésiastiques ne l'appliquent communément qu'à cette composition d'huile et de baume qui se fait avec la bénédiction solennelle de l'évêque. Ainsi, deux choses sensibles mêlées ensemble sont la matière de ce sacrement. Et par le mélange des éléments différents qui la composent, cette matière nous montre la diversité des dons du Saint-Esprit communiqués aux confirmés. Elle fait voir très bien également l'excellence de la confirmation. L'Église, dans ses conciles, a toujours enseigné que cette matière était bien telle que nous venons de la décrire. Nous en trouvons la tradition dans les écrits de Saint Denis et de beaucoup d'autres pères d'une grande autorité et surtout du pape Saint Fabien, qui assure que notre Seigneur Jésus-Christ a prescrit lui-même la composition du baume aux apôtres et qu'ils l'ont ensuite transmise à l'Église. Il n'y avait en effet aucune matière plus propre que le Saint-Crème à représenter les effets de la confirmation. L'huile, qui de sa nature est grasse, qui coule et se répand facilement, exprime la plénitude de la grâce qui par le Saint-Esprit déborde et s'étend de Jésus-Christ notre chef sur nous comme ce parfum qui coule sur la barbe d'Aaron et jusque sur ses vêtements. Dieu, en effet, a versé l'huile de joie sur son Fils, avec plus d'abondance que sur tous les autres, et nous avons tous reçu de sa plénitude. Le baume, dont le parfum est très agréable, signifie la bonne odeur de toutes les vertus que les fidèles répandent après avoir été rendus parfaits par la confirmation, et qui leur permet de dire avec saint Paul: Nous sommes la bonne odeur de Jésus-Christ devant Dieu. Une autre propriété du baume, c'est de ne pas laisser corrompre les choses qui en ont été enduites, ce qui exprime admirablement la vertu du sacrement de confirmation, puisqu'il est constaté que le cœur des fidèles, prémuni par la grâce céleste qu'il communique, se préserve facilement de la contagion du péché. Quant à la consécration du Saint-Crème, c'est l'évêque qui l'a fait avec des cérémonies solennelles. Et cet usage vient de notre Sauveur lui-même, qui l'enseigna et la prescrivit aux apôtres dans la dernière scène. Nous le savons par le pape Fabien, aussi illustre par sa sainteté que par la gloire de son martyre. Mais d'ailleurs, la raison seule suffirait pour nous montrer qu'il devait en être ainsi. Pour la plupart des autres sacrements, Jésus-Christ a choisi une matière qu'il avait sanctifiée lui-même. Ainsi, il ne s'est pas contenté d'instituer l'eau pour la matière du baptême, en disant: Si quelqu'un n'est pas régénéré par l'eau et par l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Mais quand il fut baptisé lui-même, il communiqua à l'eau la vertu de sanctifier. Ce qui a fait dire à saint Jean Chrysostome que l'eau ne pourrait pas effacer les péchés de ceux qui croient si elle n'avait été sanctifiée en touchant le corps de notre Seigneur. Comme donc il n'a point consacré lui-même la matière du crème n'en ayant fait aucun usage, il était nécessaire qu'elle le fût par des prières saintes et sacrées, et qu'une telle consécration fût réservée spécialement à l'évêque qui est le ministre ordinaire de ce sacrement. Après cela, il faudra expliquer la seconde partie de la confirmation, c'est-à-dire la forme ou les paroles qui accompagnent l'onction sainte. Il y aura lieu d'avertir les fidèles qui doivent recevoir ce sacrement que l'instant où ils entendent prononcer ces paroles est aussi celui où ils doivent exciter leur cœur des sentiments de foi, de piété, de religion, afin qu'il n'y ait rien en eux qui puisse mettre obstacle à la grâce. Voici les paroles qui contiennent la forme entière de ce sacrement. Je vous marque du signe de la croix, et je vous confirme par le crème du salut, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Et il est facile de montrer par la raison que c'est bien là la forme essentielle. En effet, la forme d'un sacrement doit renfermer tout ce qui peut en faire connaître la nature et la substance. Or, qu'y a-t-il de plus important à remarquer dans la confirmation? Trois choses. La puissance divine qui opère comme cause principale, la force de l'esprit et du cœur que l'onction sainte communique aux fidèles pour leur salut, et enfin le signe dont celui qui va entrer dans la milice chrétienne demeure marqué. Ces trois choses sont clairement exprimées dans les paroles que nous venons de citer. La première dans ces mots qui se trouvent à la fin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La seconde dans ceux placés au milieu, je vous confirme par le crème du salut, et la troisième par ces mots qui sont au commencement, je vous marque du signe de la croix. Au reste, quand même la raison ne pourrait pas prouver que telle est la véritable forme du sacrement de confirmation, l'autorité de l'Église catholique qui a toujours officiellement enseigné cette doctrine ne nous permettrait pas d'avoir le moindre doute sur ce point. Paragraphe 3. Des ministres de la confirmation. Les pasteurs doivent enseigner aussi à qui l'administration de ce sacrement a été plus spécialement confiée. Il y en a plusieurs, dit le prophète, qui courent sans être envoyés. Il faut donc apprendre au peuple quels sont les ministres véritables et légitimes de la confirmation, afin qu'ils puissent recevoir les grâces et les effets. Or, d'après la Sainte Écriture, l'évêque seul est le ministre ordinaire de ce sacrement. Nous lisons dans les Actes des Apôtres que les habitants de Samarie, ayant reçu la parole de Dieu, on leur envoya Pierre et Jean, qui prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux, et ils n'avaient reçu que le baptême. On peut voir par ce passage que celui qui les avait baptisés, n'étant que diacre, n'avait pas le pouvoir de confirmer, et que cette fonction était réservée à des ministres d'un ordre supérieur, c'est-à-dire aux apôtres. On pourrait faire la même observation partout où l'Écriture fait mention de ce sacrement. Les témoignages des saints pères et des souverains pontifes ne manquent pas non plus pour prouver cette vérité. Nous en trouvons de très clairs dans les décrets des papes Urbain, Eusèbe, Damas, Innocent et Léon. Saint Augustin en particulier se plaint fortement de la coutume tout à fait abusive de l'Égypte et d'Alexandrie où les prêtres avaient la témérité d'administrer la confirmation. Voici une comparaison que les pasteurs pourront employer pour faire comprendre combien il était raisonnable et légitime de réserver aux évêques cette fonction. Quand on élève un édifice, les ouvriers qui sont comme des ministres inférieurs préparent et disposent le ciment, la chaux, le bois et tous les autres matériaux. Mais c'est à l'architecte qu'il appartient de mettre la dernière forme et la perfection à l'ouvrage. De même aussi, ce sacrement, qui est comme le couronnement de l'édifice spirituel du salut, devait être administré par l'évêque comme souverain prêtre et non par d'autres ministres inférieurs. Pour la confirmation, comme pour le baptême, on prend aussi un parrain. Si ceux qui exercent le métier de gladiateur ont besoin d'un maître, dont la science et les conseils leur apprennent à diriger une attaque et à porter des coups pour abattre leurs adversaires sans se laisser blesser eux-mêmes, combien, à plus forte raison, les fidèles n'ont-ils pas besoin d'un chef qui les guide et qui les instruise lorsqu'ils ont été couverts et revêtus des armes puissantes que donne la confirmation, et qu'ils sont descendus dans cette arène spirituelle où le salut éternel est en jeu. C'est donc avec raison que l'on fait venir des parrains pour l'administration de ce sacrement. Ils contractent les mêmes affinités que les parrains de baptême, et le mariage leur est interdit avec les mêmes personnes. Paragraphe 4. Nécessité de la confirmation. Il arrive souvent que les fidèles apportent trop de précipitation, ou une molle insouciance et une lenteur paresseuse à recevoir ce sacrement. Quant à ceux qui sont tombés assez bas dans l'impiété pour le mépriser et s'en moquer, nous n'avons point à nous en occuper ici. Les pasteurs auront donc soin de dire qui sont ceux à qui on doit donner la confirmation, à quel âge et avec quelle disposition il convient de la recevoir. Et d'abord, ils apprendront aux fidèles que ce sacrement n'est pas d'une nécessité absolue, qu'il soit impossible de se sauver sans lui. Mais quoi qu'il ne soit pas nécessaire, personne cependant ne doit s'en abstenir. Loin de là, il faut craindre au contraire, dans une chose si sainte, qui nous communique d'une manière si abondante les dons de Dieu, de commettre la moindre négligence. Ce que Dieu a établi pour la sanctification de tous, tous doivent aussi le rechercher avec le plus grand empressement. Ce que Dieu a établi pour la sanctification de tous, tous doivent aussi le rechercher avec le plus grand empressement. Saint Luc, racontant l'effusion miraculeuse du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, s'exprime ainsi. Il se fit tout à coup dans le ciel comme le bruit d'un vent violent qui y approchait et qui remplit toute la maison. Puis, peu après, il ajoute que tous furent remplis du Saint-Esprit. Or, il est permis de conclure de ces paroles que cette maison étant l'image et la figure de l'Église, tous les fidèles ont droit au sacrement de confirmation, dont la première application date de ce jour. La même conclusion se tire encore sans peine de la nature même du sacrement. Ceux-là, en effet, doivent être confirmés par le Saint-Crème, qui ont besoin de croître spirituellement et de tendre à la perfection chrétienne. Or, tous les fidèles sont évidemment de ce cas. De même que le but de la nature est de donner l'accroissement à ceux qui naissent et de les amener à l'âge parfait, quoiqu'elles n'y réussissent pas toujours, ainsi l'Église catholique, notre mère commune, désire ardemment que le chrétien parfait se forme et s'achève dans ce qu'elle a régénéré par le baptême. Or, cet effet ne peut se produire que par le sacrement de confirmation. Dès lors, il est manifeste que ce sacrement doit être reçu par tous. Mais ici, il y a une observation à faire. Tous ceux qui sont baptisés peuvent être confirmés. Cependant, il ne convient pas d'administrer ce sacrement à ceux qui n'ont pas encore l'usage de la raison. et si l'on ne croit pas qu'il soit nécessaire d'attendre l'âge de 12 ans, au moins est-il convenable de ne pas l'administrer avant l'âge de 7 ans. D'ailleurs, la confirmation n'a pas été instituée comme chose nécessaire au salut, mais pour nous donner le courage et les armes dont nous avons besoin dans les combats qu'il nous faut soutenir pour la foi de Jésus-Christ. Or, les enfants qui n'ont pas l'âge de raison ne soutiennent pas encore ces sortes de combats. Il faut conclure de ce que nous venons de dire que ceux qui, parvenus à l'âge adulte, veulent être confirmés, ne peuvent obtenir la grâce et les effets du sacrement qu'autant qu'ils apportent à sa réception la foi et la piété, et surtout qu'ils se repentent sincèrement des fautes graves qu'ils ont commises. Les pasteurs travailleront donc à les faire confesser auparavant, ils les exhorteront à jeûner, à pratiquer d'autres œuvres de piété, et à se conformer à la louable coutume de la primitive Église en recevant la confirmation à jeun. Et il sera facile d'obtenir tout cela des fidèles si on leur fait bien comprendre les effets admirables de ce sacrement et les grâces qu'il nous apporte. Paragraphe 5. Les effets du sacrement de confirmation. On leur apprendra donc que la confirmation a cela de commun avec les autres sacrements, qu'elle donne une grâce nouvelle si elle ne trouve aucun empêchement dans celui qui la reçoit. Nous l'avons démontré plus haut, tous les sacrements sont des signes mystiques et sacrés qui signifient et produisent tout à la fois la grâce sanctifiante. Ainsi, la confirmation remet et pardonne les péchés, puisqu'il est impossible de supposer un instant la grâce avec le péché. Mais outre ces effets qui sont ceux de tous les sacrements en général, la confirmation a d'abord cela de particulier qu'elle perfectionne la grâce du baptême. Ceux qui sont devenus chrétiens par le baptême demeurent encore faibles et sans énergie comme des enfants nouvellement nés. Mais ensuite, le sacrement du Saint-Crème les rend plus forts pour résister aux attaques de la chair, du monde et du démon. Il fortifie la foi dans leur cœur pour qu'ils puissent se confesser et glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela sans doute que ce sacrement a reçu le nom de confirmation. Car il ne faut pas croire, comme quelques-uns l'ont supposé avec autant d'ignorance que d'impiété, que ce mot de confirmation vienne de ce qu'autrefois, ceux qui avaient été baptisés dans leur enfance étaient conduits à l'âge adulte devant l'évêque pour confirmer en sa présence la profession de foi qu'ils avaient faite au baptême. Autrement, il faudrait dire qu'il n'y avait aucune différence entre la confirmation et l'instruction que l'on faisait aux catéchumènes, ce qui ne peut se soutenir par aucun témoignage certain. La confirmation tire son nom de ce que Dieu, par la vertu de son sacrement, confirme en nous ce que le baptême a commencé d'y produire et nous conduit à la perfection de la vie chrétienne. Et non seulement ce sacrement confirme en nous la grâce, mais il l'augmente encore. Le pape Melchiade nous l'assure en ces termes: l'Esprit Saint, en descendant sur les eaux du baptême, les rend salutaires et leur communique la plénitude de la grâce pour réparer l'innocence de l'homme. Mais par la confirmation, il donne une augmentation de grâce. Et non seulement il l'augmente, mais il l'augmente d'une manière admirable. C'est ce que l'Écriture a parfaitement exprimé par l'image d'un vêtement nouveau. Dans ces paroles de notre Sauveur à ses apôtres: demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la vertu d'en haut. Si les pasteurs veulent faire connaître la divine efficacité de ce sacrement, et rien ne sera plus propre à toucher le cœur des fidèles, il leur suffira d'expliquer ce qui arriva aux apôtres. Avant la passion, et à l'heure même de la passion, ils étaient si timides et si faibles qu'ils prirent la fuite aussitôt qu'ils virent arrêter Jésus-Christ. Pierre lui-même, qui avait été désigné pour être la pierre fondamentale de l'Église, qui avait montré d'ailleurs beaucoup de courage et de grandeur d'âme, Pierre s'effraie à la voix d'une simple femme et soutient non pas une fois ni deux, mais trois fois de suite qu'il n'est point le disciple de Jésus-Christ. Tous enfin, après la résurrection, se retirent dans une maison et s'y renferment par la crainte qu'ils ont des Juifs. Le jour de la Pentecôte, au contraire, ils sont tellement remplis de la vertu du Saint-Esprit qu'il se mette à prêcher hardiment et en toute liberté l'évangile qui leur a été confié, non seulement aux Juifs, mais à l'univers tout entier, et qu'il ne trouve pas de plus grand bonheur que celui d'être jugé digne de souffrir pour le nom de Jésus-Christ les affronts, la prison, les tourments et les croix. Enfin, la confirmation a la vertu d'imprimer un caractère qui fait qu'on ne peut la recevoir plus d'une fois, ainsi que nous l'avons déjà dit du baptême, et comme nous le dirons encore plus au long en parlant du sacrement de l'ordre. Si les pasteurs expliquent souvent et avec soin ces vérités aux fidèles, il est impossible que, après avoir connu l'excellence et l'utilité de ce sacrement, ils ne s'empressent pas de le recevoir avec beaucoup de zèle, de piété et de foi. Paragraphe 6. Des cérémonies du sacrement de confirmation. Il nous reste maintenant à dire quelques mots des rites et des cérémonies de l'Église dans l'administration de ce sacrement. Les pasteurs comprendront très bien les avantages de ces sortes d'explications s'ils veulent se rappeler ce que nous avons dit plus haut en traitant ce sujet. D'abord, les personnes que l'on confirme reçoivent sur le front l'onction du Saint-Crème. Par la vertu de ce sacrement, le Saint-Esprit se répand dans le cœur des fidèles. Il augmente leur force et leur courage, afin qu'ils puissent combattre vaillamment dans la lutte spirituelle et résister invinciblement aux ennemis du salut. L'onction faite sur le front marque qu'ils ne doivent jamais être empêchés de confesser librement la foi du non-chrétien, ni par la crainte ni par la honte, parce que c'est sur le front que se manifestent les plus sensiblement ces diverses affections de l'âme. D'ailleurs, cette marque qui distingue un chrétien confirmé de ceux qui ne le sont pas, comme certains insignes distinguent un soldat des autres, devait être imprimée sur la partie la plus noble et la plus visible du corps, qui est le front. Il est encore un usage religieusement conservé dans l'Église de Dieu, c'est d'administrer la confirmation de préférence le jour de la Pentecôte. C'est surtout en ce jour que la vertu du Saint-Esprit fortifia et confirma les apôtres. Et le souvenir de cet événement miraculeux fait très bien comprendre aux fidèles la grandeur et l'excellence des mystères qui sont renfermés dans l'onction sacrée. L'onction étant faite et la confirmation donnée, l'évêque frappe légèrement avec la main la joue du nouveau confirmé pour lui faire entendre que, comme un athlète généreux, il doit être prêt à souffrir avec un courage invincible toutes les contradictions pour le nom de Jésus-Christ. Enfin, il lui donne la paix pour lui rappeler qu'il vient de recevoir la plénitude de la grâce divine et cette paix qui surpasse toutes nos pensées. Telles sont en abrégé les vérités que les pasteurs doivent enseigner sur le sacrement de confirmation, non pas d'une manière sèche et nue et uniquement à parole, mais avec le zèle d'une piété capable d'enflammer les cœurs. De cette manière, ils réussiront à les imprimer profondément dans l'esprit des fidèles. Copyright jésusmarie.com le 17 novembre 2009. Fichier placé sous licence Creative Commons. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.